Bonjour Émilie Desvaux.
Bonjour, merci de m'inviter.
L'intrigue de votre livre Le ciel de Tokyo se passe dans une Geijin House, une pension pour étrangers, décrite ainsi page 229. Elle était laide et en même temps à sa façon étrangement belle, belle comme les palais en ruine, comme les entrepôts ferroviaires ou les immeubles désaffectés. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu qui symbolise un peu la marge ?
C'est étrange, j'ai toujours été attirée par la laideur. Je crois que c'est Baudelaire qui disait que le beau est toujours bizarre. Et dans ses poèmes, il était le premier à célébrer des charognes, des rues parisiennes, des femmes laides, des femmes tristes. Peut-être que je suis un petit peu comme lui parce que j'ai toujours aimé les parkings, j'aime les hypermarchés. Et la Geijin House, quand je l'ai visitée à Tokyo il y a une vingtaine d'années, j'étais très déçue au début parce que le fantasme du Japon s'écroulait face à ce Kajibi. Mais en même temps, elle me charmait. Elle me charmait avec son toit, elle me charmait avec sa crasse, presque avec ses rats.
Et donc vous avez séjourné dans ce lieu que vous écrivez aujourd'hui ?
Oui, alors, ça a été un point d'inspiration, mais c'est vrai qu'elle ne me quittait pas. Et même, alors même que j'y vivais, je me suis dit quand même, c'est fou, j'avais jamais lu sur un endroit pareil. D'habitude, quand on fait quelque chose, on l'a déjà vu dans un livre ou dans un film. Mais là, non. Et je suppose que ça m'est resté et j'avais envie d'écrire dessus, quoi que ce soit fait.
Alors, ce lieu va être l'occasion d'une rencontre entre plusieurs personnages, dont Camille, une jeune femme qui vient de fuir la France et son mariage. On pourrait dire qu'elle est complètement paumée. Comment vous pourriez nous la présenter plus tendrement, peut-être ?
C'est vrai que la pauvre, quand on la regarde maintenant rétrospectivement, je me dis, elle n'est pas douée. Elle n'arrive pas à prendre le métro correctement, elle galère pour l'administratif, pour les papiers, elle est timide, elle n'arrive pas à parler bien aux gens, elle ne sait pas faire ses courses, elle n'arrive pas à trouver un travail correct et même quand elle joue le rôle de serveuse, hôtesse, elle n'y arrive pas. En même temps, peut-être que je me retrouvais en elle parce que je fais partie de ces gens qui vont galérer au quotidien pour des petites choses. Et au Japon, bon sens que je me suis sentie perdue. C'était impossible d'être perdue à ce point. Il m'est arrivé de tourner en rond pendant des heures dans un même arrondissement à chercher désespérément ma maison. Et elles étaient toutes exactement pareilles. Et j'avais l'impression de vivre une sorte d'hallucination sans fin. Donc voilà, ça s'est retrouvé dans ce personnage.
Alors, il y a également un universitaire devenu secrétaire, un ancien cancre qui gagne sa vie en étant escort boy. Des personnages qui ont en commun de se débattre dans leur existence sans trop savoir où ils vont et de s'embourber dans ce lieu pas très reluisant dont pourtant vous faites un portrait très beau. Est-ce que ce livre, c'est un éloge de la laideur et du flottement ?
Je crois, oui. C'est un éloge aussi, c'est bizarre de dire ça, mais de la stagnation. Et c'est drôle, on a tendance à vouloir partir quand on a 20 ans. Pour vivre sa vie, entre guillemets, comme s'il fallait la vivre avant quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera peut-être le travail, ce sera peut-être des enfants, un mariage, des responsabilités. Et tous mes personnages, j'ai le sentiment qu'ils sont allés se perdre dans une fuite pour pas arriver à ce point-là. Et une fuite, c'est très beau, en même temps, c'est très triste. Et l'un est vraiment, ne peut pas être vécu sans l'autre. C'est forcément navrant, et c'est d'autant plus navrant que c'est bouleversant.
C'est bouleversant d'autant plus que vous nous donnez des petites pistes sur ce qui va leur advenir et qu'il se passe quand même quelque chose dans cette stagnation.
Oui, la vie, de toute façon, à un moment donné, elle va forcer les choses pour reprendre. On ne peut pas rester figé trop longtemps face à elle, même si on est terrorisé. Soit on en prend son parti et on y va, soit elle nous emporte et puis parfois elle nous détruit.
À la lecture du livre, le lecteur se laisse flotter lui aussi avec les personnages et c'est un sentiment très agréable. Survient l'idée de vouloir nous aussi découvrir ce Tokyo-là de façon très contemplative. Est-ce que c'est une bonne ville pour se perdre et s'oublier un peu ?
Oui. Et j'y suis même retournée récemment avec ma fille de 11 ans parce qu'il était temps de montrer un peu cet héritage. Donc on y était en octobre et j'ai pu me perdre avec elle et observer à travers ses yeux. Et je me disais, mais la magie refonctionne. Ça refonctionnait le soir en allant au bain public, ça refonctionnait autour des temples. Enfin, c'était toujours là. Pourtant, le pays a changé.
Donc il y a quelque chose presque malgré elle dans cette ville qui est envoûtant peut-être ?
Est-ce que c'est en nous ? Est-ce que c'est en elle ? Je sais pas, je crois que c'est en elle. Mais c'est peut-être une idée comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une magie, c'est vrai.
Alors, vous avez beaucoup voyagé, je crois, et vécu donc un petit peu au Japon. Qu'est-ce que le fait d'être étrangère, puisque c'est un thème central du livre, vous a révélé à vous-même ?
Ça m'a révélé déjà que je n'étais pas le centre du monde, que les gens vivent leur vie, qu'ils ne sont pas particulièrement intéressés, que voilà, chacun suit son bonhomme de chemin, que notre façon de faire n'est pas la meilleure, ni la bonne forcément, ni la pire. Mais oui, ça m'a montré autre chose. Et ce que ça m'a révélé sur moi-même, que j'aimais m'ennuyer. J'ai adoré m'ennuyer, je ne le savais pas avant, et j'ai aimé être seule aussi, alors que j'avais très peur de la solitude. Et à ce jour, j'aime toujours la solitude, je crois que j'ai appris ça au Japon.
C'est plutôt bien pour un écrivain, non ?
C'est pas mal, ça aide.
Vous avez écrit un premier roman en 2011, un autre en 2013, il faut donc attendre 2025 pour ce troisième livre. Qu'est-ce qui a nourri cette attente, justement, l'ennui ?
la stagnation. Non, c'est vrai qu'il y a la peur aussi d'avancer. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir écrivain. Et un jour, l'auteur Hugo Bourris m'a dit « Ne t'inquiète pas, t'en as écrit deux, c'est à partir du troisième qu'on devient écrivain. » À partir de là, alors c'est fou, ça m'a totalement bloquée. Si à partir du troisième, c'était bon, c'est... Donc voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait des tas d'autres choses. Et puis un jour, moi aussi, je suis sortie de la Gaijin House et j'ai dit « Bon, allez, je reprends les choses en main et j'ai plus peur. »
Oui, et vous êtes devenu écrivain, il n'y a pas doute là-dessus. Et la Gaijin House, c'était il y a très longtemps, donc en fait, il a fallu aussi attendre un petit peu, assez longtemps, pour que le chemin, l'histoire que ça vous inspire arrive vraiment à vous.
Oui, c'est vrai. J'ai eu l'impression qu'elle s'est encroûtée de plus en plus au travers des années. Elle était toujours plus sale dans ma tête. J'y suis retournée donc en octobre, je voulais la revoir de mes yeux, et j'ai trouvé un garage Amazon, ça m'a fait drôle, il n'y avait plus rien.
Ah, donc elle n'existe plus, on ne peut pas y aller.
Elle y était en soi, mais elle avait été métamorphosée, on avait mis un rideau de fer, tout était bloqué, je cherchais les vieux détails, et même la rue, il n'y avait plus les petits troquets, cette rue-là en tout cas était devenue déserte. Bon, après les villes changent, Tokyo change sans arrêt.
Émilie Dévaux, vous signez Le ciel de Tokyo chez Rivage, une invitation au voyage, au flottement, à la contemplation, et c'est extrêmement agréable. Merci beaucoup.
Merci à vous.